Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venu. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir 6 mai 2022. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran et l'Indonésie se prononcent en faveur du développement de la coopération bilatérale. Téhéran appelle l'ONU à faire face aux effets négatifs des sanctions. 3 Israéliens ont été tués dans une opération à l'arme blanche. La Russie a effectué, en fait, a simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire. Le PAM affirme que l'insécurité alimentaire s'aggrave rapidement en Afrique de l'Est. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Les présidents iraniens et indonésiens se sont entretenus au téléphone de la coopération bilatérale et des questions d'intérêt des communs. Lors de cette conversation téléphonique, le président iranien, se référant aux capacités, aux diverses capacités des deux pays, a souligné, en travaillant ensemble pour réaliser de ces capacités, les relations entre les deux pays peuvent être développées dans tous les domaines. La République islamique d'Iran cherche à renforcer ses relations avec, en fait, des pays ses amis, tant au niveau régional qu'international. Dans une autre partie de cette conversation téléphonique, le président Raïsi, faisant référence à l'importance de la question palestinienne dans le monde islamique, a déclaré « Les pays islamiques doivent être cohérents et unis dans la défense des luttes menées par le peuple palestinien ». Lors de cette conversation téléphonique, le président indonésien Joko Widodo a félicité le président et le peuple iranien, insistant sur, en fait, l'intérêt de son pays à développer la coopération bilatérale, régionale et internationale avec la République islamique d'Iran, notamment dans le domaine de l'énergie et de la santé. En plus des points communs culturels, l'Iran et l'Indonésie ont des points de vue proches sur les questions régionales et internationales et de tous deux soutiennent les causes du peuple palestinien, a-t-il souligné. Téhéran appelle à l'ONU à faire face aux effets négatifs des sanctions. En qualifiant les sanctions de contraires aux principes du droit international et du droit humanitaire de la Charte des Nations Unies, l'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies a appelé à la poursuite des efforts du Département des communications mondiales des Nations Unies pour faire face aux effets négatifs des sanctions imposées contre les pays et les nations. Dans un un discours devant la Commission du renseignement de l'Assemblée générale des Nations unies. Majid Tarsaravanchi, ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès de l'ONU, a condamné les sanctions unilatérales et illégales imposées contre les pays et les nations et a déclaré les sanctions ont exacerbé les problèmes économiques, commerciaux et financiers des pays sous sanctions et ont entravé l'accès aux équipements médicaux et aux matières premières en affaiblissant leur croissance économique en restreignant l'accès aux financements étrangers. Le haut diplomate de la République islamique d'Iran a déclaré que malheureusement certains pays continuaient d'utiliser leur technologie de communication moderne propriétaire pour déformer et falsifier les réalités d'autres pays, en particulier des pays en développement, et ainsi d'éternir l'image et les intérêts de ces pays. Cette situation défavorable doit attirer immédiatement l'attention de la communauté internationale. Se référant au phénomène croissant de l'islamophobie en Occident, Tarsaravanchi a indiqué l'atmosphère de haine envers l'islam et les musulmans dans le monde qui est provoquée par les médias anti-islamiques et la rhétorique provocatrice et fanatique de certaines personnalités politiques occidentales est un sujet de grande préoccupation. Il est temps que la communauté internationale condamne le phénomène de l'islamophobie et prenne les mesures nécessaires pour combattre l'islamophobie et la violation des droits fondamentaux des musulmans, a-t-il ajouté. Au moins 3 personnes ont été tuées ce jeudi soir, 5 mai, lors d'une opération à l'arme blanche dans la colonie d'Ilad, dans le centre de l'entité sioniste. Dernière attaque en date visant Israël qui célèbre le 74e anniversaire de sa création ou l'usurpation de la Palestine. Selon des services de secours israéliens, 4 autres personnes ont été blessées, dont 2 grièvement, dans cette attaque est survenu dans la colonie d'Elat qui compte environ 50 000 colons, dont de nombreux de juifs ultra-orthodoxes. Dans un communiqué, la police d'occupation n'a donné aucune précision sur l'identité des auteurs de cette attaque, ni sur les circonstances de l'attaque. Il s'agit de la 6e opération anti-occupation depuis le 22 mars dernier. Ces opérations, dont certaines ont été menées par des Palestiniens originaires des territoires occupés en 1948, ont fait 18 morts au total, en incluant ceux de jeudi soir à Eilat. Les factions de la résistance palestinienne ont salué cette opération héroïque qui constitue une riponse naturelle au crime de l'occupation contre les Palestiniens, toujours selon ces factions de résistance palestinienne. Nous continuerons de lutter pour mettre en échec le plan colonial et des turbines éoliennes, soulignent les Golanais. Les habitants du Golan syrien occupé ont réitéré la poursuite de leur lutte contre l'occupation israélienne pour mettre en échec son plan colonial visant à installer des turbines éoliennes sur plus de 4000 de terres agricoles. Lors d'une réunion tenue dans le sanctuaire d'Abu Zar al-Rifari, dans la zone d'Al-Majred, entre les 2 villages occupés de Masada et Majd al-Shams, les Golanais ont indiqué que l'occupation tente par tous les moyens à mettre en œuvre son plan sur leur terre agricole, soulignant qu'après avoir épuisé tous les moyens, les Golanais n'ont pas de choix que la confrontation sur le terrain pour avorter le projet, quels que soient les sacrifices. Moscou a annoncé que son armée avait simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad, située entre la Pologne et la Lituanie, deux pays membres de l'Union européenne. Les forces russes ont procédé à des frappes uniques et multiples sur des cibles qui simulaient des lanceurs de systèmes de missiles, des aérodromes, des infrastructures protégées, des équipements militaires et des postes de commandement d'un ennemi fictif, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. L'insécurité alimentaire s'aggrave rapidement en Afrique de l'Est, à l'heure qu'on estime à 81,6 millions le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, y compris des personnes déplacées, des réfugiés, des communautés d'accueil dans les zones rurales et urbaines, a averti jeudi le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Le PAM, dans sa mise à jour périodique de la situation, a déclaré que l'aggravation rapide de la situation représentait une hausse d'environ 39% par rapport aux 58,6 millions de personnes enregistrées en novembre dernier. La situation globale en matière d'insécurité alimentaire devrait s'aggraver dans la plupart des pays de la région pendant la saison maigre, tout en faisant face à des chocs multiples et des superposés. Les sécheresses, les inondations, les défis macroéconomiques et les conflits, selon le PAM. L'agence onusienne a averti que la situation nutritionnelle de la région était critique, avec environ 7 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans qui seraient gravement malnutris en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, dont plus de 1,7 million avec malnutrition sévère aiguë. Eh bien, chers amis, si touche à sa fin notre journal d'information, merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous, nous allons vous proposer dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Les États-Unis tuent-ils les généraux russes? Ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Les États-Unis ont fourni des renseignements sur les unités des Russes qui ont permis à l'armée ukrainienne de prendre pour cible de nombreux des généraux russes qui ont péri lors des combats en Ukraine, a révélé mercredi le New York Times, citant un haut responsable américain. Washington a fourni à l'Ukraine des détails sur les mouvements des troupes russes prévues à Kiev, ainsi que d'autres détails sur les quartiers généraux militaires mobiles. Ayant regroupé les renseignements avec les siens, l'Ukraine a mené des frappes d'artillerie et d'autres attaques qui se sont soldées par la mort des officiers russes, a indiqué toujours le journal. Les responsables ukrainiens ont affirmé avoir tué environ 12 généraux russes sur le champ de bataille, précise le New York Times. Les responsables américains, ajoutent le journal, ont refusé de préciser combien de généraux avaient été tués par le biais des renseignements fournis par les États-Unis à l'Ukraine. La nouvelle intervient alors que les États-Unis ont formé plus de 23 000 soldats ukrainiens entre 2015 et 2022 dans le cadre d'un programme qui a coûté quelque 126 millions de dollars au Pentagone, a déclaré de mercredi le général de brigade américain Joseph Hilbert, révélant les tentatives de longue date de Washington d'étendre son hégémonie dans la région. D'ailleurs, un haut responsable du Pentagone a fait état de la livraison de 90% des mortiers prévus dans le plan d'aide à l'Ukraine, et ce alors que la Russie a averti à plusieurs reprises qu'elle se réserve le droit de prendre pour cible les expéditions occidentales de matériel militaire vers l'Ukraine. Évoquant le pompage d'armes à l'Ukraine par les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN, le ministre russe de la Défense, Sergueï Chouïgou, a déclaré que tout transfert d'armes vers l'Ukraine était considéré par la Russie comme une cible légitime à détruire. C'est dans un tel contexte que Moscou a affirmé que son armée avait simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad à la frontière avec l'Union européenne. Après avoir envoyé des troupes en Ukraine fin février, le président russe Vladimir Poutine a proféré des menaces à peine voilées sur la volonté de la Russie de déployer des armes nucléaires tactiques. Cette annonce intervient au 70e jour de l'intervention russe en Ukraine. Lors des manœuvres militaires dans l'enclave Kaliningrad en mer Baltique, située entre la Pologne et la Lituanie, deux pays membres de l'Union européenne, la Russie a simulé des lancements électroniques de systèmes de missiles balistiques mobiles et des Iskander à capacité nucléaire, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Les forces russes ont procédé à des frappes uniques et multiples sur des cibles qui simulaient des lanceurs de systèmes de missiles, des aérodromes, des infrastructures protégées, des équipements militaires et des postes de commandement d'un ennemi fictif, a précisé encore le communiqué. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans son récent discours prononcé à l'occasion de la journée mondiale d'Al-Quds, le secrétaire général du Hezbollah libanais Seyyed Hassan Nasrallah a salué le courage des Palestiniens, surtout des Palestiniens vivant dans les territoires occupés de 1948. Seyyed Hassan Nasrallah qui a salué également ceux de combat auxquels sont livrés les Palestiniens. Dans son discours, Seyyed Hassan Nasrallah a évoqué également l'Iran. Seyyed Hassan Nasrallah a évoqué l'Iran et a souligné que l'Iran avait averti tous les pays qui ont normalisé avec l'entité des sionistes que toute agression israélienne contre l'Iran sera affrontée par une riposte directe contre le site nucléaire israélien basé sur le sol, si vous voulez, de ces pays arabes qui ont normalisé avec l'entité israélienne. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage. On reviendra tout de suite après.
L'avertissement est clair et il est à double sens. Si Israël commet le moindre agissement contre où que ce soit, l'Iran frappera Israël. Et que le régime ne se fasse aucune illusion pendant nos élections. Le Hezbollah est en alerte maximale et prêt à renforcer l'équation de dissuasion, a annoncé Seyyed Hassan Nasrallah. S'exprimant à l'occasion de la journée mondiale de Quds, Seyyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, a déclaré ce vendredi 29 avril que la journée mondiale de Quds est célébrée dans plus de 90 pays et que des millions de personnes dans différentes villes d'Iran et du Yémen sont descendues dans les rues d'une manière inédite, sans manquer de saluer des dizaines de milliers de fidèles à la mosquée Al-Aqsa. Depuis la création de cette entité usurpatrice, ses sponsors, ses maîtres et le mouvement sioniste ont œuvré pour stabiliser, consolider et protéger cette entité et ont travaillé sur de nombreuses voies, y compris celle de l'oubli. Aujourd'hui, à travers les événements des dernières années et de cette année, nous confirmons que le chemin de l'oubli a échoué, a-t-il ajouté. Ils ont œuvré depuis 1948 sur l'option de la désespérance à l'égard de la restauration de Rots et des lieux saints, indique Nasrallah. Aujourd'hui, le peuple palestinien est plus optimiste et plus sûr que jamais que la victoire sera réalisée. La question palestinienne fait partie de notre religion, notre foi, notre dignité. Nous sommes une nation qui n'abandonne pas sa religion et sa dignité, a-t-il précisé, avant d'affirmer que la confrontation militaire a prouvé qu'Israël n'est pas un destin à subir et peut être vaincu. Selon le leader du Hezbollah libanais, les opérations individuelles ont été menées par des Palestiniens, issus de maintes régions et dans des zones géographiques, ce qui porte un message fort. L'acquis le plus important des opérations individuelles est que, contrairement à la vision sioniste, il a été prouvé que la sécurité et l'occupation ne vont pas de pair. Plus loin dans ses propos, Nasrallah a évoqué la normalisation avec l'entité qu'il a vivement condamnée à titre de pire hypocrisie. C'est la pire hypocrisie que de prétendre que la normalisation sert les intérêts du peuple de la Palestine.
Merci, merci infiniment d'avoir choisi cette émission. Le débat pour cette émission, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités. J'ai avec moi au téléphone depuis Toulouse un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Norostine, bonjour à tous vos auditeurs et bien sûr à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, M. de Dortiguier, c'est un juriste français spécialiste des questions internationales, de l'auteur d'un livre appelé « L'axe de l'espérance ». Il s'agit de Maître André Chamy. Maître Chamy, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous pour votre gentillesse et pour votre accueil, ainsi que professeur Dortiguier.
Merci. Maître Chamy, je viens de lancer le sujet. Comment évaluez-vous le récent discours de Seyyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, surtout là où il parle en fait de la question iranienne, de la riposte iranienne à une éventuelle agression de la part du régime israélien?
Les menaces israéliennes, ce sont des menaces réelles, c'est-à-dire ce sont des menaces qui continuent d'exister tant que cet État existe. Parce que c'est un État qui est né de l'agression et qui est né de la volonté d'éliminer l'autre. À partir de là, évidemment, soit vous vous défendez, soit vous vous obtempérez et par conséquent vous disparaissez. Et la vision de l'imam Khomeini déjà a été une vision, je dirais, de perspective. Pourquoi ? Parce qu'en créant la journée d'Al-Quds, l'imam Khomeini a créé de l'espoir. Parce que cette journée n'est plus une journée de commémoration, c'est devenu une journée de lutte. Je rappelle que les peuples de la région ont un destin, c'est celui de libérer cette ville sainte. Et à partir de là, tous les moyens devaient être mis en place afin de parvenir à cette finalité. Et un axe, j'appelle moi l'axe de l'espoir, est né sur ces fondations-là, c'est-à-dire d'abord libérer les territoires de ces pays-là, si des pays sont occupés par l'entité sioniste, mais au-delà de cela, c'est l'idée de parvenir à libérer la ville sainte des occupants. Et c'est devenu le leitmotiv de chacun d'entre nous et de chaque individu qui appartient à cet axe. L'Iran, c'est le porte-drapeau, le porte-étendard, mais derrière la République islamique d'Iran, il y a d'autres pays, il y a d'autres organisations. Vous avez le Hezbollah, vous avez la Syrie, mais vous avez également les organisations palestiniennes, notamment le Hamas et les djihad islamiques, qui ont donné de l'espoir aussi au peuple palestinien, parce que face à l'échec qui a été mené par l'autorité palestinienne qui a préféré soi-disant l'idée d'obtempérer par rapport à la légalité internationale, laquelle légalité a abandonné le peuple palestinien depuis la naissance de l'entité sioniste, cette légalité n'avait aucun sens. Mais malgré cela, ils ont accepté la légalité soi-disant internationale, ils sont parvenus à quoi ? À rien. Ils sont calfeutrés dans une espèce de bâtiment qui s'appelle Moncatar, et sans aucun pouvoir, ils sont même devenus les agents secrets, si j'ose dire, d'Israël à travers les accords sécuritaires. Ce qui donne de l'espoir aux Palestiniens, ce sont les organisations qui luttent réellement sur le terrain, c'est-à-dire le Hamas et les djihadistes islamiques. Ceux qui ont donné le premier exemple, ce sont les Libanais à travers le Hezbollah, en libérant déjà le territoire libanais et en devenant par naissance, pour ne pas dire à travers leur existence, une menace existentielle pour l'entité sioniste. Ce que l'ensemble des responsables israéliens rappellent, il n'y a aucun État dans le monde qui se lève le matin pour dire « j'ai une menace existentielle », c'est-à-dire une menace de disparition. Le seul pays qui ose le dire aujourd'hui, c'est Israël. Ses responsables, au plus haut niveau, que ce soit les responsables de sécurité, que ce soit les responsables politiques ou les responsables militaires, se posent au quotidien cette question par rapport à la menace existentielle, c'est-à-dire une menace de disparition. Pourquoi ? Parce qu'ils sont conscients que leur disparition est devenue une éventualité réelle. Ce n'est plus juste une supposition qui était dans les esprits ou en tout cas dans l'imaginaire. Là, c'est une disparition réelle qui peut survenir à tout moment. Et aujourd'hui, ça dépend que de l'acte de l'espoir qui peut se préparer davantage à cette bataille que j'ai toujours eu l'occasion de dire devient inévitable, pour ne pas dire indispensable. Et les Israéliens le savent et ils essayent de repousser les échéances. Ils essaient de repousser les échéances à travers les attaques de temps à autre à tel ou à tel endroit ou en visant telle ou telle personnalité, mais en réalité, ce sont des petits obstacles, si j'ose dire, mais le grand obstacle, c'est de pouvoir se débarrasser de l'ensemble de l'axe de l'espoir. Mais aujourd'hui, cette question est devenue derrière nous, parce que pour cela, il faut que Israël puisse attaquer d'abord la tête, pour ne pas dire le porte-étendard de l'axe de l'espoir, c'est-à-dire la République islamique d'Iran. Et aujourd'hui, l'Iran est devenu hors de portée d'Israël par rapport à la question existentielle, c'est-à-dire ce que a voulu rappeler Saïd Hassan Nasrallah à travers son discours, c'est d'abord la République islamique d'Iran ripostera, et cette riposte pourra aboutir à anéantir l'entité sioniste, mais derrière ça, chaque membre de l'axe de l'espoir pourra devenir demain le fer de lance pour aboutir à cette grande bataille qui, encore une fois, deviendra inévitable. Et c'est la raison pour laquelle la résistance palestinienne, aujourd'hui, elle parle d'une voix très forte en disant l'ensemble de la région. C'est pour ça qu'on parle du front régional. Et M. Sanouar l'a rappelé il y a quelques jours, un front régional risquerait de se créer le jour où il y aura l'un des membres de cette coalition qui se trouverait attaqué. Et à ce moment-là, l'Israël devra se préparer à une guerre sur une multitude de fronts, et les Israéliens savent qu'ils n'ont pas aujourd'hui la capacité d'y faire face, c'est-à-dire la menace existentielle est réelle et devient plus qu'inévitable pour cette entité. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de solution, raison pour laquelle ils essaient de donner de l'espoir à leur population à travers ces coalitions fictives avec certains pays qui ont voulu collaborer avec eux, notamment à travers les accords d'Abraham. Mais ces accords d'Abraham, c'est qu'une façade, c'est une sorte de gage qui a été donné par les Américains pour donner de l'espoir, en tout cas pour donner un semblant de confiance. Mais cette confiance ne peut exister qu'en faisant disparaître l'axe de l'espoir, alors que cet axe est né pour aboutir à ses objectifs. Et parmi ces objectifs, c'est la disparition de l'entité sioniste. C'est indiscutable.
Monsieur Dortiguier, vous venez d'entendre l'analyse de Maître Jamy, qui dit que voilà, de cette bataille paraît désormais était inévitable, et s'agissant de cette bataille, Maître Jamy parlait de l'existence de la constitution même d'un front régional contre le régime israélien, Monsieur Dortiguier.
Oui, je crois d'ailleurs que de ce point de vue, les autorités israéliennes ont toujours menti à leur propre peuple, si je puis dire, c'est-à-dire à tous ceux qu'ils ont invités à venir chez eux, en disant qu'ils avaient une patrie assurée, et qu'ils pouvaient, disons, avec plus ou moins d'accommodement, dominer sur place et avoir des traités ou, disons, des complicités, disons, à l'extérieur. Or, ceci est faux, car ce que vient de démontrer Maître Jamy, c'est que, disons, le peuple, ce qu'on appelle le peuple palestinien, est un corps qui s'insère dans l'ensemble et de la Syrie et du Liban. C'est ce que disait, je le rappellerai, le congrès de Jéricho en 1947, juste après, en 1948, pardon, juste après la proclamation de l'entité sioniste par Ben Gurion. Il a dit que nous faisions partie, nous les Palestiniens, de la Syrie méridionale. C'est-à-dire qu'on a oublié et fait oublier à l'opinion publique que Israël était en train de, non seulement d'oppresser certaines populations arabes ou autres, mais qu'en réalité, il occupait une série d'autres États qu'il avait, par des moyens de, après la guerre de 14, disons, de protectorat ou autre, voyez-vous, divisé en Liban, en Syrie, etc. Or, aujourd'hui, la réalité populaire, la réalité vraie, disons, reprend le dessus, voyez. Et il est certain, donc, que Israël était, comme tous les mensonges, quelque chose qui ne pouvait qu'être que effacé par le temps, voyez. Alors, il y a, bien sûr, cet armement atomique d'Israël, bien sûr, qui a été dénoncé par Mardoké ou Mordecai Benounou, vous savez, qui est un ingénieur atomiste israélien marocain d'origine, bon, qui a dénoncé donc cet armement formidable qu'a Israël, mais cet armement lui sera d'aucune utilité, car en réalité, dès qu'il l'utilisera, évidemment, et il se heurtera à la riposte, bien sûr, de l'Iran et, disons, d'une coalition unifiée contre lui. Voyez-vous, la force politique, elle est plus importante que la force des armes.
Monsieur d'Ortiguier, en fait, cet Hassan Nasrallah affirme dans son discours que les conditions sont désormais garanties pour la riposte iranienne à toute agression israélienne.
En effet, il a raison, les conditions sont réunies, bien sûr. Et l'État d'Israël ne peut pas se permettre une riposte iranienne, mais bon. Ça, évidemment, c'est là qu'il est fragilisé et qu'on a toujours dit que finalement l'État d'Israël, si je puis dire, je le dis sans aucune polémique, uniquement par observation objective, c'est une escroquerie envers d'abord en premier les colons israéliens qui sont invités à venir. Voyez-vous, c'est quelque chose qui n'est pas durable, c'est un facteur d'agitation. Voyez-vous, ce n'est pas un facteur au sens propre national. Voyez-vous, c'est un État artificiel. Comme tout ce qui est artificiel, ça profite à ceux qui sont à l'extérieur d'Israël et pas à ceux qui sont à l'intérieur d'Israël.
Maître Chami, en fait, dans son discours, s'agissant toujours de cette bataille à laquelle on venait de faire allusion, cet Hassan Nasrallah a donné également un exemple concret de cette attaque iranienne contre le site militaire du Mossad à Erbil, dans la région du Kurdistan irakien, qui avait été visé avec 12 missiles de précision. Et cet Hassan Nasrallah dit que désormais, l'Iran va riposter directement à toute agression contre sa présence. Maître Chami, est-ce que là, cet Hassan Nasrallah fait allusion aux agressions israéliennes contre la Syrie, que désormais, en fait, il va y avoir en fait des ripostes directes aux agressions israéliennes contre la Syrie, Maître Chami?
Moi, j'ai envie de dire, cet Hassan Nasrallah a pris le dernier exemple, mais en réalité, l'exemple le plus flagrant, c'est l'attaque de Ayn al-Assad. Parce que, au lieu de, comment dire, au lieu de s'en prendre aux gendarmes, on s'en est pris à l'état-major. Parce que quand vous vous en prenez à la base militaire américaine, c'est beaucoup plus important que vous en prendre à une cellule, si je veux dire, israélienne, aussi importante qu'elle soit, et qu'elle soit garnie par les hauts officiers de sécurité israéliens. Quand vous en prenez à une base militaire américaine, sans la moindre réponse de ces derniers, c'est que vous avez déjà pris de l'ascendant sur l'ensemble des acteurs dans la région. C'est parce que vous vous en prenez au plus fort, pour ne pas dire au plus haut parmi eux. Et à partir de là, bien entendu, vous dotez des moyens pour dire, eh ben maintenant, tous ceux qui sont en dessous, je peux les atteindre. Et vous commencez par les Israéliens, mais il y en a bien d'autres. Et c'est la raison pour laquelle les menaces iraniennes contre tous ceux qui comploteraient contre son territoire, et ils ont averti d'ailleurs les Kurdes pour qu'ils ne soient pas, et notamment Barzani, le clan de Barzani, c'est les mafieux de Barzani, quand on les prévient en disant « Vous n'avez pas intérêt à ce que ce territoire que vous considérez comme autonome soit une source de menace pour notre territoire », le message s'adresse à l'ensemble des acteurs qui pourraient commencer ou démarrer de ce territoire-là, mais en réalité, ça s'adresse à l'ensemble des acteurs et en particulier les entités sionistes. Parce que c'est l'entité sioniste qui a été visée à travers la première attaque, mais ça peut viser d'autres acteurs. Et bien entendu, ils ne réagiront pas plus que les Américains par rapport à toute riposte. Et les Israéliens aujourd'hui le savent, parce qu'un État dont les responsables politiques, si j'ose dire, se lèvent tous les matins pour dire « nous avons des menaces existentielles », ce n'est pas courant. Un État normal ne peut pas dire cela. Vous imaginez que la France se lève le matin en disant « nous avons une menace existentielle ». C'est juste pas possible. Mais un État tel que l'entité sioniste, c'est un État, comme l'a rappelé le professeur Dortiguet, est un État artificiel, mais au-delà du caractère artificiel, ce n'est pas un conglomérat, si j'ose dire, de citoyens qui appartiennent à une même nation, puisque cette nation n'existe pas. Ce qui existe, c'est un habitat commun, c'est une sorte de copropriété où tout le monde essaye de se servir. Mais en réalité, il n'y a rien qui lie cette population, parce que c'est des parajoutés d'une culture différente, d'un environnement différent, et aujourd'hui, très peu sont prêts à mourir pour cette entité. Alors que le premier ciment d'une nation, c'est d'accepter de mourir pour cette nation. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une volonté de la part de beaucoup d'Israéliens, c'est en cas de menace, c'est de quitter ce territoire. Et le dernier exemple qui a eu lieu, c'est quand la population arabe de 48, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Palestiniens de l'intérieur, se sont révoltés. Il y a des villes israéliennes, moi j'appelle des villes palestiniennes, se sont vidées de leur population israélienne parce qu'ils ont eu peur, ce qui prouve qu'ils ne sont pas prêts à se battre pour leur territoire. Et les Palestiniens ont eu le mot le plus fort et ont eu la puissance la plus forte pour, si j'ose dire, faire disparaître cette présence. C'est-à-dire, si la bataille devait prendre une intensité beaucoup plus importante, évidemment, les choses auraient encore une autre configuration et, bien entendu, la menace existentielle apparaîtra comme une réalité et pas simplement comme une supposition.
Monsieur Dortiguet, en fait, et Maître Chami Essink, voilà, il s'agissait d'un message adressé à un ensemble des acteurs, un message adressé à la fois au régime israélien, également à ces régimes qui ont normalisé avec l'entité israélienne. Il est également, naturellement, question des États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Dortiguet?
D'un message, M. Merostin, qui est un message en premier, en tout réaliste, c'est-à-dire qu'il montre ce qu'il y a d'artificiel dans les accords que certains dirigeants arabes, par exemple, que ce soit en Afrique du Nord ou en Orient, veulent conclure avec les Israéliens. Ça, c'est un premier point. Et c'est également, disons, aussi un message qui est réaliste, dans la mesure où il dit que tout ce que les Palestiniens, tout ce que les États arabes peuvent entreprendre pour aider l'affaire se fonde, j'entends la lutte, enfin, se fonde sur une réalité. C'est le reste qui est artificiel. C'est la paix, soi-disant, avec l'entité sioniste, qui est une illusion. Je crois que ce n'est pas du tout utopique. Je crois que un des mérites de M. Nasrallah a toujours été de parler de façon, justement, je dirais, non pas vraie seulement, mais réelle. Objectif. Et je crois que c'est en ce sens qu'il a, qu'il aura une influence non seulement en Orient, mais également aussi en Europe, car en Europe, nous subissons également cet état-là. Nous souffrons même de cette situation.
Maître Chami, M. Dortiguet dit que voilà, il s'agit d'un message réaliste, réel. Autrement dit, si j'ai bien suivi M. Dortiguet, il va en fait dire que voilà, si Seyyed Hassan Nasrallah adresse un tel message, il sait parfaitement que voilà, que la résistance palestinienne, l'axe de l'espoir, selon vous, l'axe de la résistance, a les moyens de la réalisation, si vous voulez, de cet objectif.
Absolument, absolument. J'ai envie de vous dire, la dernière fois, le dernier incident, c'était il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, me semble-t-il, il y a une quinzaine de jours, quand il y a eu cette tentative de si j'ose dire, de souiller l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa. Et la menace palestinienne a été claire, il y a eu un lancement d'un ou deux missiles. Et les Israéliens ont voulu, soi-disant, riposter, ils ont bombardé un terrain vague, Mais le lendemain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert les vannes à la société palestinienne en disant, on ouvre les passages et bien entendu, on facilite le passage des travailleurs. Alors que cet encerclement imposé par les Israéliens a toujours été dénoncé par les Palestiniens. Quand, jusqu'à maintenant, les Israéliens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient tout simplement encore plus de pression. Aujourd'hui, ils sont obligés de lâcher la pression en croyant que l'économie allait faire baisser la tension. Mais en réalité, non, parce que cette intensité est beaucoup plus profonde que la question économique. Aujourd'hui, c'est encore une fois une question d'existence, parce que ce territoire devra retrouver, si j'ose dire, son sens naturel, où il y a un seul peuple. C'est le peuple palestinien qui se trouve sur son territoire, avec le retour de ce qu'on appelle les réfugiés, c'est-à-dire ceux qui ont dû quitter par l'exode vers les autres pays arabes, mais également cette espèce d'osmose entre l'ensemble des composants de cette population palestinienne. Et c'est ça le retour à la normalité. Et tout ce qui se fait depuis la naissance de l'État sioniste, de l'entité sioniste jusqu'à maintenant, c'est quoi? C'est tout ce qui est contre la nature, c'est-à-dire imposé par la force, par la transplantation, par le déracinement d'une population et la transplantation d'une autre population qui venait d'Europe, d'Afrique, des États-Unis ou de je ne sais où, pour remplacer la population déracinée, c'est quelque chose qui est contre la nature. Et vous pouvez tout faire, bien entendu, si ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, les Palestiniens et leurs alliés se sont dotés des moyens pour justement faire en sorte que le sens de l'histoire reprenne son sens réel et reprennent le dessus par rapport à tout ce qui a été fait pour malmener la population et ce territoire.
Merci infiniment, maître André Chamy, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Alsace. Mes vifs remerciements vont également à vous, monsieur Pierre Dortiguier, analyste politique et spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi au téléphone pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
RICS et multipolarité. Ces dernières années, le monde est en crise, non seulement à cause de l'instabilité économique, mais aussi à cause des problèmes politiques relatifs au déclin idéologique et à la perte d'identité. Un nouvel ordre mondial est en train d'émerger. D'un monde unipolaire, nous passons progressivement à un ordre mondial multipolaire. Cependant, sur le plan scientifique, la théorie du monde multipolaire, MMT, n'a pas été finalisée, car elle ne figure pas aujourd'hui parmi les théories et paradigmes classiques des relations internationales. Malgré cela, un nombre croissant d'ouvrages sur la politique étrangère et la géopolitique liées au TMM sont apparus au fil du temps. L'historien britannique Paul Kennedy, spécialiste des relations internationales, a prédit dans son livre « L'ascension et la chute des grandes puissances » 1987 que l'équilibre des forces militaires allait changer au cours des 20 à 30 prochaines années, pour aboutir à un monde multipolaire vers 2009. Jusqu'à présent, sa prédiction ne s'est pas réalisée. Mais aujourd'hui, en 2022, nous faisons l'expérience d'un changement dans l'ordre mondial plus aigu que jamais. En 2000, la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright a soutenu que l'ordre mondial émergent n'est plus unipolaire, mais plutôt multipolaire. En 2009, le rapport Global Trends 2025 du National Intelligence Council American a déclaré que les conditions préalables à l'émergence d'un système multipolaire mondial étaient en train de se mettre en place sur les deux prochaines décennies vers 2029. Cette hypothèse sera testée par le temps. Le rapport cite les facteurs suivants. La montée en puissance de pays tels que la Chine, l'Inde, qui peuvent influencer la création d'un système mondial multipolaire. En 2025, il n'y aura plus une seule communauté internationale d'États-nations. Le pouvoir sera dispersé parmi les nouveaux acteurs politiques. Il y a aussi la dépendance des pays vis-à-vis des grands exportateurs de gaz, comme la Russie et l'Iran. si les prix sont élevés, la puissance de ces pays augmentera considérablement. Le niveau du PIB de la Russie pourrait en théorie égaler celui du Royaume-Uni et de la France. Comme nous le savons, la question de l'approvisionnement en gaz de la Russie à l'Union européenne n'a pas été résolue jusqu'à présent. En raison d'un nombre précédent de sanctions américaines et européennes contre la Russie, la Fédération de Russie a décidé de vendre du gaz exclusivement en roubles à partir du 1er avril 2022. Ce qui a provoqué une vague d'indignation dans l'Union européenne. Toutefois, le 25 avril 2022, on a appris que l'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient passés au paiement du gaz en rouble. Ainsi, l'un des points d'influence de la Russie sur le monde pourrait être les ressources énergétiques. Alors, quelle est la théorie du monde multipolaire ? Quelle est la théorie du monde multipolaire? Il a été développé en Russie en 2012 grâce au philosophe, sociologue et penseur politique russe A.G. Dugin. Dans sa monographie intitulée « La théorie d'un monde multipolaire pluriversum », il a présenté le concept en détail. Le TMM est avant tout un concept politique qui constitue une interprétation alternative du concept de multipolarité largement utilisé dans la théorie des relations internationales. La création de la théorie s'est appuyée sur diverses études politiques et culturelles anthropologiques ainsi que sur des systèmes socio-philosophiques tels que la géopolitique, le racialisme et plusieurs autres. Ajoutons qu'elle s'appuie sur l'idéologie de la révolution conservatrice et le traditionnalisme de la nouvelle droite. Cette théorie vise à construire un nouveau système non occidental de relations internationales. En 1993, le politologue américain Samuel Huntington a proposé le concept du choc des civilisations, qui correspondait tout à fait aux idées de Dugin. Les nouveaux centres, posés comme tels, sont une alliance de plusieurs États BRICS, Russie, Brésil, Chine, Inde et Afrique du Sud. Cependant, les partisans américains de l'unipolarité rigide ne veulent pas reconnaître le terme multipolarité. C'est pourquoi ils ont proposé un autre terme, la non-polarité. Ce concept suppose que les processus de mondialisation vont se développer davantage et que le modèle occidental d'ordre mondial va étendre sa présence parmi tous les pays et peuples de la Terre. Ainsi, l'hégémonie intellectuelle des valeurs de l'Occident se perpétuera. Toutefois, cette théorie soulève un certain nombre de doutes en raison des développements mondiaux actuels. La Chine, par exemple, devance désormais, en toute confiance de soi, les États-Unis dans un certain nombre d'indicateurs. Depuis 2013, l'initiative « Une ceinture, une route » s'est développée. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a été lancée, ce qui a été un succès pour la RPC. La Chine a commencé à promouvoir les idées du concept chinois de l'avenir commun de l'humanité. L'un des postulats de ce concept est la création d'une grande famille qui peut être interprétée comme une interconnexion étroite entre les peuples du monde. Progressivement, la Chine s'éloigne du soutien à l'ordre mondial existant pour tenter de remplacer l'ancien hégémon, les États-Unis. Une autre théorie, alternative à la théorie de la multipolarité, est celle d'un monde multipolaire. C'est que les États-Unis ne doivent pas être la seule puissance hégémonique. Elle devra plutôt tenir compte des positions de ses partenaires et parvenir à des solutions de compromis avec les autres pays. Mais comme nous le savons, la politique américaine à ce jour est en totale contradiction avec cette thèse. Ensuite, il convient de définir un cadre clair pour un monde multipolaire. Il ne s'agit pas d'un retour des deux pôles tels que les États-Unis et l'URSS qui se faisaient face autrefois. Dans un monde multipolaire, il doit y avoir plus de deux pôles. La multipolarité n'est pas non plus compatible avec les concepts de non-polarité et de multilatéralisme mentionnés précédemment. Il est important de noter que la tendance à la multipolarité ne fera dans les États qui sont principalement orientés vers un monde multipolaire, la Russie, la Chine, l'Inde et quelques autres. Le racisme, par exemple, est considéré comme l'une des stratégies pour un monde multipolaire. À ce jour, il existe plusieurs perspectives sur l'intégration eurasienne. Premièrement, l'Union économique eurasiatique en tant qu'interprétation de l'eurasisme. Deuxièmement, l'évaluation de l'Union économique eurasiatique comme un véritable concurrent qui pourrait menacer les intérêts de l'Union européenne et des États-Unis. Troisièmement, la possibilité d'évaluer objectivement la relation entre la politique étrangère de la Russie et l'intégration eurasiatique et les développements politiques mondiaux. Le projet chinois « Une ceinture, une route » mentionné plus haut peut être considéré comme un complément à l'eurasisme. Un projet comme celui de la Grande Eurasie est souvent considéré ici dans sa globalité. Il est également important de noter que le terme « eurasisme » est souvent utilisé pour décrire la Russie et les nouveaux États indépendants. Selon l'historienne française M. Laruelle, la plasticité de l'eurasisme en tant qu'idéologie explique sa popularité. Parmi les prémices théoriques de l'eurasisme, Laruelle identifie les suivantes. Le rejet de l'Occident et du capitalisme, l'affirmation de l'unité culturelle entre l'ancienne Union soviétique et certaines parties de l'Asie, la formation d'une forme impériale d'organisation politique et la croyance en l'existence de constantes culturelles.
Thank you.